venons près de toi, Seigneur. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est la guérison. Le repos, c'est la santé.
Yeah.
Le repos, c'est le bonheur. Le repos, c'est être en harmonie avec toi. Et ce matin, Seigneur, tu vas donner le repos à ton peuple. C'est le qui est tout monté, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence, il y a d'abondante joie. Il y a le repos, il y a le bonheur. Merci, Seigneur, pour nous avoir acceptés dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur, tu vas nous rencontrer. Rencontrer ton peuple dans ses besoins, à travers ta parole, Seigneur. Ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Tu as créé à travers elle, Seigneur. Et ce matin, tu peux dire un mot pour quelqu'un, Seigneur, et que tout change dans sa vie. Fais-le ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Parle à nos cœurs et fais-nous du bien. Sanctifie ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Notre Dieu est très bon. Nous allons faire la lecture dans 1 Samuel chapitre 13, du verset 5 au verset 22. Et nous lirons aussi un verset au chapitre suivant. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ces peuples étaient innombrables comme le sable qui est sur les bords de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendait 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait, Saül ?» répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Saül, je me suis perdu. Puis Saül s'éleva et monta à Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gilgal, plutôt à Gibéa de Benjamin, et le Philistin campait à Michmash. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tchoboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël. Retenez ça. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car le Philistin avait dit, « Empêchons les Hébreux de se fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme en Israël descendait chez le Philistin pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. quand les tranchants des brèches, des bêches, des oyaux, des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül. Et Jonathan, il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Amen, amen. Nous lisons le chapitre 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons-nous jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. » Alléluia. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Vous savez, bien-aimés, quand nous passons par des situations difficiles, avec raison, nous cherchons la solution auprès de notre Dieu. Nous avons la foi. Nous croyons que Dieu va agir. Nous attendons patiemment avec confiance l'intervention de Dieu. Malheureusement, très souvent, cette intervention tarde toujours à venir, pour la plupart des cas. Les temps passent, les années passent, rien ne se produit. Nous commençons à perdre patience, car la foi qui devrait nourrir la patience, cette foi passe par une sorte d'épreuve. Dès lors, la tendance est de chercher les raccourcis, chercher la solution par nous-mêmes. On est fatigué d'attendre, alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous avons attendu, la solution tarde à venir. Nous nous fatiguons, nous voulons chercher notre propre solution, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est nous qui avons faibli dans notre foi. Cette foi qui devrait stimuler, qui devrait nourrir notre patience, qui devrait permettre à Dieu d'intervenir et d'agir en notre faveur à son temps, pas à notre temps, cette foi faiblit. Ce matin, le thème de notre message, nous l'intitulons de la manière suivante, « Quand la patience et la foi ouvrent la porte au miracle. » Quand la patience et la foi ouvrent la porte au miracle. Vous savez, comme je venais de le dire, la foi est la nourriture de la patience. La foi nourrit la patience. Quand nous avons la foi en Dieu, nous pouvons attendre. Nous avons l'énergie nécessaire pour attendre l'intervention de Dieu. Donc, trois mots vont constituer, ou alors vont être dites dans ces messages. Ce serait la patience, la foi et le miracle, mais ces trois mots ne seront pas pris de manière séparée. Nous allons parler de ces trois mots en même temps, parce qu'ils sont tellement liés, nous ne saurons pas les séparer. Mais nous allons plutôt être plus pratiques en parlant de quelques personnages bibliques. Et le personnage principal se trouve Saül. Et nous parlerons de certains autres personnages pour démontrer comment est-ce que la patience et la foi ouvrent la porte au miracle. Mais pour bien comprendre ce message, permettez-moi de nous situer le contexte. Nous sommes dans le contexte de guerre. Israël doit faire la guerre contre le Philistin. Saül se trouve dans une situation de guerre contre le Philistin. Israël est assiégé par le Philistin. Les rapports de forces sont déséquilibrés. D'un côté, Israël, la Bible dit, Saül n'a que 3000 hommes. 3000 hommes. Il n'a pas de char. Il n'a pas d'armes. Il n'a que deux épées. Une avec Saül, une autre avec son fils Jonathan. Mais de l'autre côté, nous avons l'armée philistine. Cette dernière a 1000 chars, 600 cavaliers. Et le nombre de ces hommes, la Bible dit, ils sont innombrables comme les sables au bord de la mer. Israël doit faire face à cette armée une armée puissante, une armée qui est composée de milliers de militaires. Dans ce contexte, Saül ne peut pas engager le combat, il doit attendre l'arrivée de Samuel, afin que celui-ci implore la grâce de Dieu, pour que Dieu intervienne en faveur de son peuple. Saül devrait attendre pour cela 7 jours. Samuel devait venir au 7e jour. Saül a attendu 7 jours. Cette attente est devenue de plus en plus longue. Dans cette attente, les gens qui étaient avec Saül commençaient à le quitter, un après l'autre. Pris de peur, ils fouillaient Saül. La Bible dit, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans le buisson, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galad. Saül était encore à Gilgal, et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Ils avaient peur. Ils commençaient à fuir pour sauver leur vie. Et Saül commençait à rester tout seul. Comment se battre alors que son armée est démotivée, son armée prend fuite? Il ne lui reste que 600 hommes. Tous les autres sont partis. Il ne reste qu'avec 600 hommes, sans armes, avec 2 épées seulement. Et nous sommes au 7e jour. Mais Samuel, où es-tu? Samuel ne vient pas. Nous sommes au 7e jour. Saül pourrait se dire, nous avons longtemps attendu. Nous avons attendu, nous sommes au 7e jour. Samuel ne vient pas. Nous pensions que Samuel viendrait au 7e jour. Mais jusque-là, il n'est toujours pas venu. Le peuple est en train de me quitter. Je suis en train de rester tout seul. Que dois-je faire? Continuer à attendre? Ou dois-je prendre mes responsabilités et offrir moi-même cet holocauste, ce sacrifice d'action de grâce pour implorer la grâce de Dieu? Samuel tarde. Il ne vient pas. Bien-aimés, ce qui nous arrive, nous aussi, nous pensions que Dieu allait agir. Malgré notre patience et notre foi en Dieu, la situation va toujours de mal en pis. Alors nous prenons nos responsabilités, nous choisissons les raccourcis et nous posons des actes de l'impatience qui ne vont pas nous profiter. Saül a attendu 7 jours. J'aimerais dire à Saül, Saül, nous sommes au 7e jour. Le 7e jour n'a pas encore pris sa fin. Peut-être que nous sommes que le matin. Le 7e jour, Samuel viendra au 7e jour. Il viendra au 7e jour. Il a dit, il sera là au 7e jour. Au 7e jour, il va venir. Samuel a attendu jusqu'au 7e jour. Il s'est dit, non, je ne sais plus attendre. Il demande l'holocauste. Et lui va offrir à Dieu. La Bible dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé. Tu ne peux pas le faire, c'est pas ton travail. Tu n'es pas qualifié pour ça. Tu as déjà longtemps attendu. Et nous sommes au 7e jour. Pourquoi tu t'impatientes? Attends encore un tout petit peu. Ce matin, je me redirai à quelqu'un que nous sommes au 7e jour. Le 7e jour prendra fin à 23h59. Puisque nous sommes encore au 7e jour, croyez-moi que Dieu va intervenir. Samuel va venir. Peut-être qu'il est encore 6h du matin. Tu as patienté dans ton problème. Tu as eu un problème. Tu as un problème. Tu as des situations, des difficultés. Tu espères en Dieu. Tu te dis, mais c'est Dieu là, où est-il? C'est Dieu m'a oublié, c'est Dieu m'a abandonné. Et pourtant, tu as déjà beaucoup attendu. Tu es au point d'être exaucé. Mais tu perds patience. Pourquoi? Parce que la foi qui est en toi, qui devrait nourrir cette patience, cette foi passe par une épreuve. Tu faiblis dans la foi et tu poses des actes de l'impatience comme l'a posé Saül. Et pourtant, le septième jour n'a pas encore pris fin. Alléluia. Nous sommes au septième jour. Tu es au septième jour dans ta situation. Tu es au septième jour. Les uns trouveront la solution le matin. Les autres à midi. Les autres encore le soir. Les autres la nuit. Mais toujours au septième jour. Nous ne connaissons pas à quelle heure Dieu va nous visiter. Mais ce qui est sûr, il va nous visiter parce qu'il l'a promis. Il a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il est avec toi. Il te connaît par ton nom. Je dis que nous allons parler de quelques personnages bibliques dont Saül est ce personnage central. Permettez-moi de parler de Sarah. Contrairement à Job, Sarah a perdu la patience car sa foi était fortement secouée par l'épreuve du temps. Elle a attendu. Elle a longtemps attendu pour avoir un enfant, l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu a promis à Abraham et à Sarah. Cet enfant ne venait pas. Sarah a considéré son âge et a dit en elle-même, une vieille femme comme moi ne peut plus concevoir. C'est toi qui l'as dit, qu'à ton âge tu ne peux plus concevoir. Mais qu'a dit Dieu? Dieu t'a promis un enfant. Dieu a dit, tu auras cet enfant. C'est Dieu qui a fait la promesse et non pas un homme. Ne regarde pas ta condition, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Sarah perd patience. Elle prend ses responsabilités. Elle pose cet acte de l'impatience. Elle va dire à Abraham, écoute, sors avec ma servante. Fais avec elle un enfant, un fils. Et ce qui fut fait, Abraham a eu un fils avec Agar. Chose que Sarah va regretter toute sa vie, parce qu'elle a agi dans l'impatience. Elle a amèrement regretté. Et un jour, même une année avant la naissance d'Isaac, Sarah va dire, alors que Dieu lui a dit qu'il aura un enfant, on lui confirme encore ces mêmes paroles, Sarah va dire, la Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors, elle rit. Ça s'appelle assez Sarah. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Pour dire que c'est impossible, je ne peux plus avoir un enfant. Il y a un néné à moi, une famille amie. Nous grandissions, nous vivions côte à côte. Nous étudions tous au campus. Et puis après, nous avons fini les études. Cet année, elle avait fini au moins 5 ans avant moi, elle s'est mariée. Nous aussi, nous avons fini. Chacun de nous est parti dans son coin faire sa vie. Nous nous sommes mariés, nous tous. Cet année-là, elle s'est mariée 5 ans avant. Et il n'avait pas toujours d'enfants. Je me suis marié plus tard. Après lui, j'ai eu 3 filles. Lui n'avait pas toujours d'enfants. 10 ans de mariage, il n'avait pas d'enfants. 15 ans de mariage, il n'avait pas d'enfants. 20 ans de mariage, pas un enfant. Et vous savez, pour une femme, 20 ans après, il a quel âge? Cette femme a atteint 50 ans sans enfants. 22 ans de mariage sans enfants. C'est à 50 ans que cette femme va concevoir. Alléluia. Elle va concevoir et elle va à l'hôpital. Avec l'échographie, on va découvrir qu'elle n'a pas qu'un seul enfant dans son ventre. Elle en avait combien? 3. Alléluia. Les types, 3 enfants. Ses frères. Son jeune frère a prié avec nous ici. Ce ne sont pas des racontards, la vérité. Et puis les médecins ont dit, il ne publie pas avec 3 enfants dans son ventre. Nous ne pouvons pas risquer de le faire accoucher ici. Elle doit aller dans un pays où la médecine est développée. Vous savez ce que Dieu fait? Il ouvre encore le chemin du voyage. Cette femme s'est retrouvée dans un pays développé où la médecine est poussée. Et aujourd'hui, elle a déjà accouché ses 3 enfants. La semaine passée, j'ai appelé son mari. Je l'ai appelé pour lui dire, pour lui présenter mes félicitations. Et il m'a dit une chose, il a dit, pasteur Elie, je me suis toujours posé la question, d'où me venait cette force de croire? Comment je pouvais croire? Je ne sais pas d'où me venait cette force. Je lui dis, cette force venait de Dieu. C'est Dieu qui donne la force de continuer à croire. Croire là où personne d'autre ne peut croire. Bien-aimé, la foi qui nourrit la patience permet à ce que le miracle se produise. Il avait encore cette foi. Et il croyait. Il est resté avec son épouse. Et aujourd'hui, quand je l'ai appelé, il me dit, pasteur Elie, je vais prendre mon avion pour rejoindre mon épouse. Alléluia. Et ce que Dieu a commencé avec ce couple, Dieu n'a fait que commencer. Il va les amener de gloire en gloire, comme il va les faire aussi pour vous. Nous n'avons pas à désespérer. Nous n'avons pas à perdre patience. Gardons notre foi en Dieu et nous vivrons notre miracle. Cela est arrivé aussi à Job. Malgré sa situation douloureuse, il a gardé sa foi et a attendu patiemment l'intervention de Dieu. Et il a fini par vivre son miracle. Dans Job 19, 25 à 27, elle le dit, ça c'est Job qui parle. Parce que, d'abord, il a perdu tous ses biens. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a même perdu tous ses enfants. Si c'était nous aujourd'hui, nous aurions maudit Dieu. Job a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, mais encore, il a été touché dans sa santé, dans son corps. Il est devenu très malade. Vous ne pouvez pas le reconnaître, vous le regardez, vous ne le reconnaissez pas. Et ses amis qui sont venus pour le consoler, ils ne sont là que pour encore le critiquer en sa présence, le condamner en sa présence. Il y avait toutes les raisons pour Job d'arrêter d'espérer en Dieu. Et même son épouse va lui dire, écoutez, tu continues encore à garder ta foi en Dieu. Maudit Dieu et meurt. Très souvent, nous condamnons cette femme. Nous disons que certainement elle voulait rester libre. C'est vrai. Mais il y a aussi autre chose. Ça nous arrive à nous tous aussi quand nous avons quelqu'un qui est très malade, qui souffre. Il ne meurt pas, mais nous voyons sa souffrance de manière sincère. Nous disons non, c'est lui-même qu'il parte se reposer, qu'il meurt. La mort serait un repos pour lui. Cette femme a dit aussi à son mari, Job, mais maudit Dieu et meurt, pourquoi tu demeures fidèle? Et Job va dire quelque chose pour démontrer qu'il avait encore la foi en son Dieu. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Sauveur est vivant. Mon Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas mort. C'est lui ton Rédempteur. Il va te sauver. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Que les autres s'élèvent d'abord. Le mien va s'élever quand tout le monde a fini. Quand tout le monde est coincé, quand tout le monde ne sait plus quoi faire, quand la médecine s'est avouée incapable, s'est avouée incompétente, n'est-ce pas? Dieu va s'élever. Il va s'élever. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Il va s'élever. Quand je n'aurai plus rien dans mon corps, il n'y a que des peaux. Il n'y a que la peau. Il va s'élever. Il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Il y a des gens qui ont déjà vu Dieu. Job a vu Dieu. À la fin de sa vie, il a dit ceci. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il a vu Dieu par ses réalisations. Tu vas voir Dieu dans ses réalisations dans ta vie. Tu vas reconnaître que ça, c'est Dieu. Tous les autres étaient levés avant. Ils étaient incapables. Mais quand mon Dieu s'est levé, il a mis fin à ma situation. N'est-il pas été quand il s'élève, ses ennemis se dispersent. Et là, je te dis, mes yeux les verront. Et non ceux des autres. Et non ceux d'un autre. Et mes yeux, tes yeux verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Pas les yeux de quelqu'un d'autre. Tes propres yeux verront. Comme Job avait vu, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Quelle est ta situation? Rien n'est impossible à Dieu. À Sarah, Dieu a dit, quand Sarah arrive, quand Sarah n'a pas cru, Dieu a dit, n'y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Dieu fait des choses qui étonnent. Dieu ne s'étonne de rien, mais lui étonne les gens par ce qu'il lui fait. Il va t'étonner parce qu'il est Dieu. Job continue en disant, mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job est impatient de voir la réalisation de Dieu. Il n'agit pas dans la précipitation, même si ça traîne. Je sais qu'il va s'élever. Bien-aimé, que ça traîne ou que ça ne traîne pas, rassure-toi que tu es au septième jour. Le septième jour n'a pas encore fini. Revenons à notre personnage. Non, je voulais encore continuer avec Job pour dire que finalement, il va vivre le miracle de sa vie. Dieu va le rétablir. Dieu va le restaurer. Dieu va lui accorder le double de ce qu'il avait perdu. Il aura encore des fils et des filles. Et la Bible dit, les filles de Job étaient des belles femmes. Aucune femme n'égalait aux filles de Job par la beauté. Et ajouté à cela, Dieu a donné à Job 140 ans de plus. Alléluia. Dieu sait nous récupérer les années perdues. Toutes les années perdues, nous allons le récupérer. Ne dites pas que l'âge avance. Même si l'âge avance, Dieu va t'ajouter encore. Il va t'ajouter encore les années. Il est le maître des temps et des circonstances. Là, c'est dans Job 42. Revenons à notre personnage, Saül. Qu'est-ce qui va arriver avec Saül? Dans son impatience, il ne va plus attendre Samuel, lui-même va offrir l'holocauste et les actions de grâce à Dieu. Alors qu'il n'était pas qualifié pour cela, nous l'avons déjà dit. Mais aussitôt fini, Samuel se présente. Saül, c'était le septième jour. Samuel arrive. Il termine de poser l'acte dans son impatience et Samuel se présente. Et quand Samuel arrive, il part le saluer, mais Samuel va prononcer des paroles dures à Saül. Et va lui dire, tu as agi en insensé. À chaque fois que nous posons des actes dans l'impatience, nous devenons des insensés. Ce que Sarah avait fait, c'était insensé de prendre sa servante et lui donner à son mari. C'est insensé. Même quand on joue au football, vous verrez un joueur qui a fait le gros. Il arrive devant le but. Au lieu seulement de pousser la balle, le ballon dans le but, et il tape à côté. Nous tous nous crions, ah oui, vraiment, ça ne va pas. Parce qu'il a agi dans la précipitation. Samuel va ajouter en disant, tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel. Nous sommes appelés à observer la parole de Dieu. Si nous n'observons pas la parole de Dieu, dans nos situations, de ce qui nous arrive, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et que dit Dieu dans cette situation? Qu'a-t-il dit? Et ce que Dieu a dit, c'est que tu dois observer. Et si nous n'observons pas cette parole, nous nous disqualifions nous-mêmes. Enfin, Samuel va lui dire, ton règne ne durera plus. Dieu a mis fin à ton règne. Il aurait affirmé pour toujours ton règne. Et maintenant, c'est fini. Dieu a mis fin à ton règne. Il s'est choisi quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. L'homme selon son cœur. À cause de son impatience et de la défaillance de sa foi, Saül avait perdu la royauté. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » En fait, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu paye ceux qui s'approchent de lui. Nous voulons être agréables à Dieu, nous devons observer la foi, nous devons garder la foi. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous serons agréables et Dieu va continuer à nous protéger, à nous garder. Saül est disqualifié. Mais vous savez quoi? Avec le maigre moyen qu'il avait, 600 hommes, 2 épées, il va remporter la victoire contre les Philistins. Mais cette fois-ci, pas avec sa foi, mais avec la foi de quelqu'un d'autre. Parce que sa foi était déjà défaillante, il n'avait plus de foi. Mais ce serait même avec la foi de quelqu'un d'autre, la foi de son fils Jonathan. Jonathan va dire à ce jeune homme qui portait ses armes. La Bible dit ceci. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes. Viens et poussons-nous. Poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Nous n'avons que 600 hommes. Nous n'avons que 2 épées. Ils sont innombrables. Ils ont 1000 chars. Ils ont 6000 cavaliers. Et nous, nous n'avons rien. Mais Dieu peut nous délivrer quand même nous n'avons pas d'armes. Et c'est avec cette épée de Jonathan, cette seule épée, que l'armée des Philistins va perdre le combat. Ils vont remporter la victoire contre ces gens. Bien-aimés, ce ne sont pas les armes qui sauvent. Non, non. Ce n'est pas l'argent qui sauve. On peut avoir beaucoup d'argent et aller se faire soigner à l'étranger et rentrer dans une caisse. Ce n'est pas non plus la médecine qui sauve. Ce n'est pas la biologie qui sauve, ni la technologie qui sauve. C'est l'Éternel qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Alléluia. Et ce matin, Dieu peut sauver quelqu'un. Ce matin, Dieu peut te sauver. Sur le bois du calvaire, Dieu a pourvu au salut de l'humanité. À la croix de Golgotha, Dieu a sauvé l'humanité. Et ce salut couvre en même temps le spirituel et le physique. Jésus n'est pas mort seulement pour que nous ayons la vie éternelle. Oui, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que nous soyons en bonne santé. Sur la croix, alors qu'il mourait, il nous donnait un salut complet. Je l'ai dit ici, je me suis toujours posé la question, pourquoi Pilate a ordonné qu'on puisse fouetter Jésus? Alors que lui-même était convaincu de l'innocence de Jésus. Mais s'il est innocent, tu n'as qu'à le libérer. Pourquoi tu ne le libères pas? En fait, il ne veut pas le condamner, mais il dit, il est libre pour être flagellé. On va frapper, on va le flageller. Et ses fouets ont meurtri, ont donné des plaies dans son corps. Et sur la croix, il y a eu des plaies. Et même sur sa côte, on a percé sa côte, le sang a coulé, l'eau a coulé. Et la Bible va dire, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il a été blessé pour que nous soyons guéris. S'il n'était pas blessé, nous ne serons pas guéris. Parce que lui, il était blessé. Et par ses meurtrissures, il nous donne la guérison dans nos corps. Il veut que nous soyons guéris. Il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, nos infirmités, et il nous a donné sa santé. Alléluia. Ce matin, si tu crois que Jésus a porté ces choses dans son corps pour toi, tu auras la visitation de Dieu. Dieu va te visiter et Dieu va te faire du bien. S'il l'a fait avec Job, il peut le faire avec quiconque croit en lui. Et quiconque s'attend à sa visitation, il va le faire. Habakkouk va dire, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le septième jour, la prophétie est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Et dans Jean 19, verset 30, Habakkouk, c'était 2-3. Dans Jean 19, 30, Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Avant qu'il rende l'âme, avant qu'il ne meure, il ne pouvait pas mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle il est venu dans ce monde. Cette mission était pour nous sauver. Notre esprit, un salut spirituel, mais aussi un salut physique. Alléluia. Et il a dit, tout est achevé. Tout est accompli. Tu peux ce matin aller à la croix de Jésus et te procurer de ce qu'il a accompli pour toi. Il a accompli la guérison. Il a accompli la santé. Il a accompli le mariage. Il a tout accompli. Tout, l'avenir meilleur. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Sinon, il ne serait pas mort. Amen, amen. Nous pouvons nous approprier ce qu'il a accompli sur la croix. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur.
Alléluia. Oui, nous pouvons nous approprier ce que le Seigneur a fait à la croix. Et quand les pasteurs prêchaient, je me demandais quel était le point commun de tous ces gens patients. Comment ils ont fait pour être patients, pour attendre jusqu'à ce que l'accomplissement de la promesse s'efface. Eh bien, la réponse, c'est dans ce que nous avons chanté. Toutes ces personnes savaient que Dieu est au contrôle des choses qui les contrôlaient. Alléluia. Dieu est au contrôle de la maladie qui te contrôle. Dieu est au contrôle de la situation qui en ce moment cherche à te rabaisser. Dieu est au ton contrôle. Alors celui qui sait que Dieu est au contrôle, il peut s'élever. Nous allons prier ensemble avec lui ce matin. Papa, bien, s'il vous plaît. S'il est au contrôle, ce que ce matin va faire quelque chose. Alléluia. Papa Enes, s'il vous plaît. Jésus. Jésus. Alléluia. Précieux Père Céleste, quel bonheur pour nous ce matin de t'écouter nous parler ainsi. Tu es complet, complet. Quand tu es là, on sent ta présence. Ce que nous avons chanté, c'est ce que tu nous as confirmé par ta parole. Le Dieu qui est au contrôle, le Dieu qui a les contrôles, rien n'échappe à ton regard. Toi qui connais les nombres de nos cheveux, y a-t-il quelque chose d'étonnant de toi? Qu'est-ce qui peut t'étonner? C'est nous qui serons toujours étonnés, mais pas toi. Même le diable le sait, le diable en enfer sait que tu n'es surpris par aucune situation. Tu es l'ancien des jours. Tu connais la fin dès le commencement. Alors aujourd'hui, tu nous as réunis pour nous donner cette équation spirituelle. Quelle équation, Seigneur, ce matin que tu nous déposes? Patience plus foi égale le miracle, le surnaturel. Wow! Tu es Dieu! Et ce matin, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Quelles que soient les situations, quels que soient les temps, oh Seigneur, qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Nous le voyons même dans cette nation. Nous sommes en train de vivre des choses que d'aucuns pensent. Que non, est-ce que ça sera ça? Mais c'est ça, parce que c'est toi qui es au contrôle. Alléluia! Nous sommes dans la joie de t'appartenir. En étant tous debout, Seigneur, nous sommes en train de te célébrer. Nous te célébrons à cause de tes hauts faits. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Tu restes Dieu. Le vainqueur de Golgotha. Tu es Dieu. Bénis le peuple et bénis ton serviteur. Au nom de Jésus.
Alléluia. Jésus. Et pourtant,